Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et bien-être et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Pour moi, c'est une pratique qui infuse notre quotidien, qui nous aide à mieux connaître et écouter notre corps et même parfois à voir les choses autrement. Tous les 15 jours, j'explore avec des profs passionnés les façons dont le yoga impacte nos vies. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à me laisser une note et un commentaire, notamment sur Apple Podcasts. C'est vraiment le meilleur moyen de me faire connaître. Aujourd'hui, on va parler du silence. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de davantage de silence dans nos vies pleines de sollicitations? Comment trouver le silence intérieur, notamment à travers la pratique du yoga, et se réserver des moments de silence au quotidien, sur et en dehors du tapis? Vous allez entendre plein de conseils donnés par Jeanne Dujardin, fondatrice du mouvement et des retraites Silence, et Georgina Attias, professeure de yoga, qui est aussi membre de ce mouvement. Je vous conseille d'ailleurs de rester jusqu'au bout si vous voulez faire une petite pause dans votre journée. Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup de vous joindre à moi aujourd'hui pour cet épisode. Pour commencer, Jeanne, est-ce que tu peux nous raconter, toi, ton lien avec le yoga et puis nous expliquer ce qui t'a donné envie de lancer le mouvement Silence ?
Mon lien avec le yoga, je dirais que déjà, ça a été un petit peu la source de la création de Silence. Ma maman est professeure de yoga, donc je pratique depuis quelques années et ça a commencé, on va dire, à tracer mon chemin vers une quête de sens, vers un travail spirituel. Suite au yoga, il y a la méditation aussi qui est rentrée dans ma vie. Et puis, au fil de l'eau, j'ai surtout laissé de la place à la quête de silence, qui est venue aussi par ma rencontre avec le désert marocain où je me rends chaque année. Et en fait, de ce goût pour le silence, c'est devenu une réelle passion. Et je me suis rendu compte que ce silence était la source d'équilibre dans ma vie. Et c'est là que j'ai décidé d'en faire ma mission de vie, en fait, aujourd'hui, avec la création du mouvement Silence, qui permet à chacun de redonner la place au silence dans sa vie.
D'accord. Et alors, du coup, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous proposez avec ce mouvement Silence?
Alors, Silence, en fait, c'est la création d'espaces et d'expériences humaines autour du silence et de la nature. Donc concrètement, le cœur de l'activité, c'est l'organisation de séjours silence. Donc c'est des retraites en silence et en déconnexion digitale qui se passent dans la nature. Et ça consiste en l'idée de rester plusieurs jours sans parler. Donc les séjours vont de 3 à 7 jours. On propose en fait différentes activités, dont le yoga, qui est vraiment une activité pilier des séjours, et aussi le qigong sur certains séjours, ainsi que des ateliers créatifs, de la sonothérapie, des ateliers de sensibilisation écologique, et j'en passe.
Et est-ce que c'est inspiré des retraites de méditation en silence Vipassana, ou est-ce que ça se veut plus accessible peut-être au plus grand nombre ?
Alors, l'inspiration est clairement venue de Vipassana. C'est une expérience que j'ai moi-même vécue et qui a été une vraie étape clé, je dirais, dans ma vie.
Ouais, on peut rappeler aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est Vipassana ?
Alors, Vipassana, c'est une méthode de méditation qui a plus de 2500 ans, qui vient d'Inde, de Birmanie. En fait, cette méthode s'apprend sous forme d'une retraite qui dure 10 jours, où pendant 10 jours, on est en silence complet. On médite 10 heures par jour, sans lire, sans écrire, et généralement c'est dans des conditions assez austères. Pour ma part, j'étais en Inde et on n'avait pas, on se douchait avec un seau d'eau, on dormait sur une planche, enfin voilà, c'était assez militaire. Et suite à cette expérience, je me suis dit que ce serait génial de pouvoir donner accès au silence, mais avec la notion de plaisir qui vienne s'ajouter à l'expérience pour rendre ça accessible et même agréable en fait.
D'accord. Alors, Georgina, toi, tu es professeure de yoga et tu es membre de ce mouvement Silence. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et puis nous dire ce qui t'a plu dans cette approche et de quelle façon tu participes au mouvement ?
Alors, donc, je suis professeure de yoga Kundalini et de Yin Yoga. Donc, j'ai rencontré le yoga pour ma part au Pérou. Ça a été une grande révélation de pouvoir justement rencontrer le yoga dans un lieu, un environnement extraordinaire. C'était une nature, une végétation, on peut imaginer la forêt amazonienne. Et avec ça, j'ai découvert le silence qui n'est pas un silence sans bruit, qui est le silence de la forêt. qui m'a complètement bouleversée. Et donc, j'ai voulu amener en fait ce que j'avais reçu dans cette forêt dans ma vie quotidienne. Donc, ça m'a pris un peu de temps, mais je me suis formée et je suis devenue prof de Kundalini et de Yin Yoga. Et petit à petit, en étant un peu effrayée aussi, parce que bien que professeur de yoga, bien que travaillant avec le silence, c'est pas évident le silence. Donc du coup, faire de l'espace à ce qui est à l'intérieur de soi, à ses émotions, à tout ce qui peut émerger, qu'on connaisse ou pas, c'était pas évident. Et donc du coup, Jeanne, elle a une façon, justement comme elle disait, le plaisir, le bras du plaisir, elle a une façon de nous emmener là-dedans, qui est douce, qui est bienveillante et qui est en même temps forte et puissante. Enfin voilà, ça m'a plu de la suivre là-dedans et voilà.
Qu'est-ce que tu proposes en fait? Tu proposes du yoga, de la méditation durant ces stages silence?
Oui, donc du yoga, beaucoup de yin yoga, parce qu'on est dans quelque chose d'assez doux. Donc l'idée, c'est pas non plus de partir sur un parcours trop yang, avec trop d'énergie. Donc on est plutôt sur du yin yoga. Et je suis plutôt dans de la méditation active, dans les chants, davantage dans le mouvement et la musique que dans le silence complet. Bien sûr, pendant les cours de yoga et pendant les moments de relaxation ou entre les postures, il y a ces moments de silence que j'accompagne soit par le silence total, c'est-à-dire sans parler, sans musique, soit avec, j'espère, les mots justes.
Alors c'est amusant parce que ce matin, on parle de silence et derrière toi, Georgina, il y a des travaux. On entend un petit peu les coups de marteau. Ça colle tout à fait à ma question qui est, bah, est-ce que vous trouvez qu'on a justement un vrai besoin de davantage de moments de silence parce qu'on a une hyper sollicitation sonore dans nos quotidiens avec beaucoup de bruit qui peut être souvent facteur de stress? Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose que vous constatez, ce besoin de moments de silence qu'on a du mal à trouver dans nos vies quotidiennes?
Oui, je pense que ça a été vraiment le point de départ de la mission de silence, c'est de venir... combattre en fait ce trop-plein de bruit. Et je rebondis sur ce que vient de dire Georgina, qui est intéressant aussi pour compléter. Elle fait bien la distinction entre le silence qu'on connaît tous, le silence zéro décibel, et le silence intérieur. Ça peut paraître étonnant que Georgina parle de chant et de musique, mais on vient accompagner en fait le silence intérieur aussi par des vibrations sonores bienfaisantes. Et évidemment, quand on parle aussi des bruits de l'Amazonie, des bruits de la nature, c'est aussi ce qu'on appelle la bioacoustie. En fait, il faut savoir que toutes les sonorités qui sont naturelles et qui sont bienfaisantes font partie aussi de notre programme, de ce qu'on propose. L'intérêt, c'est vraiment de venir réduire les sons qui sont gênants, qui sont des bruits, que ce soit ce qu'on appelle la pollution sonore dans les villes, les bruits de trafic, les bruits de notifications, d'électronique, les publicités, etc. Donc c'est vraiment différentes descriptions qu'on peut avoir du terme de silence et de son.
Et de manière générale, tu sais s'il y a quand même des études sur ça, sur les effets du bruit ou du silence sur notre cerveau et sur notre corps?
Avant de créer Silence, j'ai fait toute une recherche qui a duré plusieurs mois sur justement les bienfaits du silence, le problème du bruit, etc. Et en effet, ça a vraiment des impacts terribles, notamment sur l'humeur, la qualité du sommeil. C'est une source de stress, c'est une source de fatigue, c'est mauvais pour les neurones. Enfin, ça a vraiment plein d'effets qui sont négatifs et qu'on connaît moins, en fait. On parle souvent de la pollution de l'air, mais en fait, la pollution sonore, elle est tout aussi toxique pour nous humains, et on y est confronté sans s'en rendre compte, parce que c'est compliqué de filtrer les bruits, en fait. Sauf quand on part à la nature, bien évidemment, ou si on met un casque sur la tête, mais c'est pas évident.
Oui, c'est vrai que moi j'avais lu par exemple une étude, alors ça date un peu, mais ils avaient, chez des souris qu'ils avaient exposées à 2 heures de silence par jour par exemple, ils avaient observé qu'il y avait le développement de nouvelles cellules cérébrales dans l'hippocampe, donc la région du cerveau qui est associée notamment aux émotions ou à la mémoire. Donc effectivement, on voit qu'il y a des réels effets selon qu'on est exposé au bruit ou au silence. Toi, Georgina, donc pour toi, quelle est la place du silence dans le yoga et comment ça s'intègre dans le yoga, cette idée?
Déjà, juste, je pense qu'on est quand même aujourd'hui nombreux à savoir que yoga, YUJ, ça veut dire l'union. Et l'idée, c'est vraiment de trouver la façon de s'unir à l'intérieur de soi et de s'unir quand il y a une situation qui nous amène à la désunion, à la polarité. Le yoga, donc, c'est vraiment un espace, un état que l'on peut créer dans n'importe quel endroit, de n'importe quelle façon en fait. Du moment qu'on est en présence et en conscience avec ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est. Quand on est en train de faire des postures de yoga, j'ai pu observer parmi les élèves que la posture, ça peut canaliser et on peut, grâce au corps, en fait, trouver ce silence intérieur, c'est-à-dire dans l'immobilité du corps, là, le silence peut émerger et dans ce silence peuvent sortir des informations nécessaires pour l'esprit, nécessaires pour le corps. Mais pour d'autres personnes, d'être dans l'immobilité et le silence absolu, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et d'extrêmement angoissant. Et donc, il existe de nombreuses façons en fait d'arriver au silence. Pour moi, le silence total, ça fait partie du yoga évidemment, mais il y a beaucoup de façons de l'approcher. Du coup, pendant les cours, et je pense que c'est un des challenges de beaucoup d'enseignants aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup aussi pendant les cours, on a tendance à remplir l'espace pour accompagner au mieux, mais parfois c'est trop et l'élève a besoin d'être seul face à sa pratique. Et donc du coup, ce challenge de l'enseignant, c'est aussi de trouver le moment où il va falloir soutenir avec un mot, avec des mots ou ne rien dire de manière à ce que l'élève puisse être en communion avec son corps et avec son esprit.
C'est une chose à laquelle tu fais attention, c'est-à-dire que tu essayes dans chacun de tes cours de laisser des moments de silence, peut-être de quelques secondes ou de quelques minutes. Et à quel moment généralement tu ressens qu'il y a un besoin pour les élèves d'avoir ce moment de silence ?
Alors oui, j'essaye de plus en plus. C'est fondamental, absolument fondamental, parce qu'il ne se passe pas la même chose. Même si c'est le mot juste, il ne se passe pas la même chose quand on est guidé et soutenu et quand on est avec soi-même. Et donc, généralement, après qu'ils aient fini les postures, je laisse un temps d'intégration. Tout dépend de la difficulté de la posture, tout dépend de l'engagement du corps, tout dépend de ce qui a été demandé à ce moment-là. Mais oui, je laisse de plus en plus d'espace. Et pour la relaxation, j'essaye de ne plus mettre de musique, ne pas dire un mot, rien du tout, de manière à ce que ce soit vraiment le moment d'intégration, de réunion avec soi.
Comment vous définissez le silence intérieur ? Si vous voulez, je peux vous lire à ce sujet un petit passage du livre « Les antisèches du bonheur » de Jonathan Lehmann. Donc lui, par exemple, il dit « Être silencieux, ce n'est donc pas seulement se retenir de parler, c'est une pratique qui dépasse le cadre de la parole. On demeure silencieux chaque fois qu'on suspend en soi la compulsion des pensées qui veulent interpréter et qualifier. » Est-ce que ça, c'est une définition qui vous parle ? Parce que ça peut paraître un peu abstrait pour certaines personnes, l'idée de silence intérieur, même quand il y a du bruit autour. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ?
Je dirais que la plupart des gens, quand on entend silence, ne comprennent pas que ça peut être associé à des sonorités, mais là, on parle bien aussi du silence du mental qu'on atteint aussi par la méditation, par exemple. Et je me permets de rebondir sur ce que disait Georgina par rapport au yoga et au yin. C'est vrai que le yin yoga, c'est celui qu'on pratique le plus dans les séjours silence. Et on appelle aussi le yin le yoga du silence. Et c'est vrai que c'est un yoga qui est proche d'un état méditatif. Et c'est comme quand on guide une méditation, si on guide trop, si on parle trop, on vient rompre le silence intérieur et casser justement cette intimité qu'on vient créer à l'intérieur de soi, le principe d'intériorité. Donc c'est vrai que c'est important de savoir doser entre accompagner en tant que professeur, comme le fait Georgina, ou comme on le fait nous dans les méditations, et pouvoir laisser la personne dans son intériorité.
Je rajouterais juste une image qui me parle énormément pour comprendre l'espace de silence et comment est-ce que le mental est agité et comment est-ce qu'on peut l'amener à se calmer. En fait, si vous imaginez de l'argile, l'argile qu'on peut prendre pour le corps qui est très bonne, qu'on met dans une bouteille avec de l'eau, ça va être assez trouble pendant un long moment. Et c'est d'observer comment est-ce qu'au fur et à mesure, l'argile va comme ça se déposer en fait au fond et qui va rester l'eau avec juste légèrement teintée en fait d'argile. En faisant cette expérience d'observer, alors bien sûr on peut contempler et observer plein de choses, mais j'ai vraiment compris comment est-ce que le silence, c'est-à-dire cette espèce d'immobilité intérieure, en fait le silence pour moi c'est vraiment un contenant, et il vient comme ça observer le contenu de qui on est. Et du coup, j'observe comme ça toutes ces pensées, donc toute cette argile, toutes ces pensées comme ça qui tombent au fond de la bouteille. Et je vois cette eau claire qui qui reste et qui est pour moi cet état neutre, mais qui est quand même teinté de qui on est. C'est pas sans rien. On est quand même plein de choses.
J'aime bien que tu parles de contenant et moi je trouve aussi qu'il y a un lien qui est presque interdépendant entre le yoga et le silence, parce qu'à la fois, même s'il est accompagné de musique, le yoga a besoin de silence pour exister, pour amener le calme, la concentration, l'intériorité. Donc c'est à la fois un outil qui est utile à la pratique du yoga et c'est aussi, je dirais, l'objectif final. Après une séance de yoga, on sent vraiment le silence à l'intérieur, on se sent apaisé, on sent la sérénité, on libère de l'espace. Je trouve que voilà, il y a vraiment un lien qui est proche entre ce mutisme sacré et la pratique du yoga en fait.
Et alors, je crois que tu l'évoquais tout à l'heure, Jeanne, c'est vrai que le silence, évidemment, il peut faire naître plein d'émotions différentes. C'est vrai qu'il peut être très apaisant, mais aussi peut-être effrayant pour d'autres. Est-ce que vous observez que parfois ce silence, au début, il est mal vécu, notamment s'il dure trop longtemps? Et comment on peut apprendre à gérer cet inconfort face au silence quand on se retrouve vraiment face à soi-même, sans rien autour, concentré sur l'intérieur?
Alors moi je dirais que, par exemple pour avoir fait Vipassana, je sais que c'est vraiment une épreuve qui est hard en fait, d'expérience silencieuse où vraiment on est lâché, c'est long, on est seul et c'est strict. Après en ce qui concerne mes séjours silence, on a souvent une appréhension de la part des silencieux quand ils arrivent en fait, parce que y en a qui savent pas trop à quoi s'attendre, il y en a qui ont peur de s'ennuyer, il y en a qui ont peur de leurs pensées négatives. Mais en fait, comme on accompagne beaucoup quand même, c'est plutôt rare qu'il y en ait qui se sentent pas bien. Après, en effet, quand on est face à son silence, il y a un effet qui est direct, c'est la prise de conscience de qui on est, enfin de quelque chose de plus vrai en fait, de la réalité, parce que souvent tout est couvert par le bruit, on remplit nos vies par du contenu musical, l'image, les écrans, les gens qui nous parlent, etc. Et d'un coup de se retrouver un peu seul face à soi-même, ça peut faire un peu peur. Et évidemment, il y a des émotions qui naissent. Moi, je sais que quand j'ai fait Vipassana, j'ai eu une période de 3 jours qui était vraiment dure, où je me disais, mais waouh, enfin, c'est comme une prise de conscience de tout, en fait, de tout ce que tu avais enfoui jusqu'ici, de tout ce que tu voulais pas voir, et là, tu te retrouves vraiment face à tout ça.
Ouais, parce qu'on se retrouve face à beaucoup de pensées, en fait. Il n'y a plus que ça, en fait, il n'y a plus que nos propres pensées.
Exactement, mais en même temps, pour toute guérison, pour toute purification, il faut d'abord prendre conscience. Si on veut nettoyer en fait ces pensées négatives, il faut d'abord qu'elles apparaissent clairement, sinon on est dans un déni constamment. La phase de prise de conscience, c'est pas la plus facile, mais en fait c'est un processus qui fonctionne vraiment. C'est voilà, on rentre dans le silence, il y a un peu d'appréhension, ensuite il y a les remontées d'émotions, on accompagne ça, il y a tout un protocole qui est mis en place et ça finit, mais je dirais 100% du temps, tous les retours sont finalement une expérience merveilleuse.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le silence, comme tu dis, il permet l'émergence de qui on est vraiment et de toutes les facettes de nous. Pour moi, c'est vraiment OK, là, je fais sortir mon anxiété, mon insécurité, etc. Et comment est-ce qu'à travers ça, je vais être reçue? Et pour moi, le silence, comme dans les cours de yoga, c'est comment est-ce qu'on s'autorise en fait, à montrer qui on est, mais se montrer à soi-même et montrer à l'autre. Donc du coup, merci profondément au silence, au yoga, à la méditation, à tous ces espaces de tranquillité, en fait. Parce que c'est des espaces qui montrent notre véritable identité. En Kundalini, on parle du Satnam, de notre vérité. Et pour moi, le silence, il vient vraiment faire du tri et pousser vraiment tous les meubles, toutes les poussières, tous les sacs qui sont là. Et avec confiance, ça nous permet de trouver confiance en nous-mêmes et en la vie, en fait, et en nos potentialités.
Dans la pratique peut-être plus physique du yoga, pour toi, qu'est-ce que ça change concrètement de pratiquer en silence, par exemple? Quelle va être la différence dans le ressenti entre faire des salutations au soleil guidées par un prof ou une prof et faire des salutations au soleil en silence? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles d'explorer, de regarder, d'observer la différence entre les deux?
Ah, totalement, absolument. Après, il y a des personnes qui sont plus autodidactes que d'autres, des personnes qui ont besoin d'être guidées plus que d'autres. Donc peut-être au début se laisser guider et ensuite rentrer dans son espace à soi, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une pratique en silence pour observer les sensations, pour observer les messages. parfois, en tout cas, trop de musique ou trop de guidance avec la voix peut juste faire diversion comme n'importe quoi autour. Donc du coup, pratiquer en silence, c'est salutaire et parfois douloureux, mais c'est extraordinaire et je conseille évidemment, même le plus petit mouvement, là, enfin, je veux dire juste s'asseoir et respirer avec le silence, mais aussi soutenu par... Parfois, juste une petite cloche ou juste un petit gong, ça peut venir, comment dirais-je, réimpulser en fait une envie de calme à l'intérieur de soi. Et donc, du coup, par soi-même, on est capable de revenir au centre quand il y a de la musique ou quand il y a un divertissement autour. Donc, je pense qu'il y a plusieurs pistes à explorer. Mais en tout cas, le silence essentiel pour pratiquer parce que ce n'est pas le même ressenti. Et parfois, bien sûr, avec un peu de son. Mais je suis de moins en moins OK avec des musiques trop puissantes, avec trop de percussions, trop de basses. Enfin, voilà, il y a quelque chose où je suis plus dans quelque chose d'épuré et de plus minimaliste pour pouvoir seulement ressentir ces sons intérieurs et tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà.
Pour terminer, est-ce que vous auriez peut-être, Jeanne, des conseils pour se ménager des espaces de silence un petit peu plus dans son quotidien, ou deux, trois petits trucs, même en dehors du tapis de yoga, hein, je parle vraiment au quotidien, pour retrouver des moments de silence?
Alors déjà, j'en suis de plus en plus convaincue, le lien à la nature, c'est vraiment essentiel pour s'épanouir en tant qu'humain. Je pense que l'homme et la nature sont vraiment interdépendants et je ressens vraiment les bienfaits quand je suis dans la mer, dans la forêt, et c'est là le vrai silence. Et pour le quotidien, qu'on soit en ville ou ailleurs, je dirais que vraiment les pauses digitales, c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut s'accorder quotidiennement, vraiment, parce qu'on est pour beaucoup esclaves des écrans, des téléphones. C'est des petites choses, mais déjà allumer son téléphone le plus tard possible le matin, le couper le plus tôt le soir, faire parfois des 24 heures sans, couper les notifications, voilà, s'autoriser à répondre, pas dans l'immédiat, mais voilà, se laisser le temps, même si c'est deux jours. On n'est pas obligé de répondre aux mails ou aux messages tout de suite, sauf si c'est urgent, bien évidemment, mais je pense, voilà, prendre de l'air en fait entre les écrans et nous. Et c'est vrai que la routine d'avoir son petit temple, une pratique de silence, une méditation, donc enfin moi en ce qui me concerne c'est le matin au réveil, un petit rituel, voilà, d'avoir son hôtel ou pas, allumer une bougie ou tirer une carte, enfin chacun a son petit rituel après, ou dérouler son tapis de yoga évidemment. Mais je pense que c'est important de s'y tenir, et même si au départ, on pense qu'on n'a pas le temps pour ça. Finalement, c'est une pratique, une fois qu'on l'a fait rentrer dans notre quotidien, c'est aussi évident que se laver les dents, en fait. Et puis, on ne peut plus s'en passer. Donc, je pense que c'est important, voilà, d'en faire une priorité, de ces moments de silence.
Oui, et j'ajouterais deux petites techniques qui, pour moi, fonctionnent, enfin, qui ont très bien fonctionné au début et aujourd'hui, j'ai pu m'en séparer. La première, c'est de mettre de prendre un réveil ou de prendre son téléphone et de mettre des rappels, par exemple, je sais pas, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois par jour, à nous de déterminer des moments de pause en fait. Et du coup, on laisse le réveil sonner et là on se dit ok, il faut que je m'arrête pendant une minute ou deux. Et juste observer si on est capable de s'arrêter et de prendre une pause et de commencer à se rencontrer comme ça, d'apprendre à se connaître et d'essayer d'allonger ces moments de pause. Alors ça peut être juste une fois le matin, une fois le soir, mais ne pas non plus donner trop d'obligations ou d'injonctions, parce que ça peut nous mettre en échec. Et aussi une chose, quand on se réveille, alors ça peut être la méditation, s'asseoir et respirer, etc. Ou en tout cas, juste faire quelque chose qui nous fait plaisir. Et observer comment est-ce qu'on peut être pleinement, au moins dans ce truc-là, qui nous fait plaisir et où on sait qu'on va être présent pour ça à 100%. Et comme ça, voir comment est-ce qu'on est quand on est présent à soi à 100%, comment est-ce qu'on est quand on est en présence du plaisir. Voilà, et observer ce qui naît. Ça, c'est quand on commence, quand on ne sait pas trop par où aller. Ça a bien fonctionné. Commencer avec le plaisir au réveil et mettre des petits rappels dans la journée pour me dire est-ce que je suis capable de suspendre mon temps quelques instants et d'observer ce qui se passe.
J'aime beaucoup quand tu parles de suspendre le temps et le principe aussi d'intégrer ces moments off, en fait. Parce que je suppose qu'au début, quand tu reçois le rappel, les personnes vont se dire « il faut d'abord que je réponde à ce mail, il faut d'abord que j'aille faire ma course, il faut d'abord que... » voilà. Et en fait, juste prioriser et se dire que l'important avant tout, c'est le bien-être mental. C'est l'énergie, enfin, c'est de savoir s'octroyer ces moments de pause, c'est juste vital en fait. Et revoir un peu ses priorités par rapport à ça, parce qu'une fois qu'on arrive à les intégrer par petits, comme tu fais, en diluant comme ça des minutes dans la journée, on se rend compte que vraiment c'est un bol d'air qui est utile pour nous. Et d'ailleurs, comme ça, spontanément, si ça vous dit, j'aimerais qu'on propose aux chères personnes qui sont en train de nous écouter de se faire une petite minute, justement, en silence.
Mmh. Bah, avec plaisir, c'est une très bonne idée.
Prenons quelques secondes, si vous voulez, le temps de couper les téléphones, de s'asseoir confortablement, peut-être mettre un petit plaid si on a froid. Et puis, on va commencer dans 3, 2... Un silence. Voilà, ça fait une minute.
C'est incroyable parce que voilà, rien qu'en une minute, on voit déjà à quel point bah, c'est agréable en fait quand ça commence. Et puis aussi comment on le reçoit au début, ce moment de silence. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, de la minute, comment ça évolue aussi et ce à quoi on est attentif, etc. Enfin voilà, rien que sur une minute, je trouve que c'est hyper intéressant et qu'on se rend compte de plein de choses.
Ça réancre d'un coup et c'est vrai que si on pouvait intégrer des minutes comme ça avant de prendre la parole, avant de manger, avant une pratique, voilà, on soupçonne pas les effets de ce petit temps comme ça.
Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver dans les semaines qui viennent si on veut pratiquer avec vous, découvrir ces expériences en silence ?
Alors, il y a des séjours silence chaque mois. Les intervenants varient. Donc, on n'annonce pas forcément les équipes en amont parce qu'il y a différents porte-paroles de silence dont Georgina fait partie. Toutes les infos sont sur le site silenceexperience.com et sur les réseaux sociaux, c'est silenceexperience en un mot.
Et pour ma part, du coup, je donne des cours en visio avec le Tigre. Chaque mardi et chaque mercredi de 7h à 8h15 et de 13h30 à 14h30. Et je suis en train de travailler sur des retraites. Alors bien sûr, il y a les retraites avec Jeanne, avec Silence. Et il y a aussi celles que je vais proposer de mon côté qui seront plutôt pour septembre. Donc on a un peu le temps. Et puis il y a les Zooms que je propose en mon nom chaque semaine. Et on peut me retrouver du coup sur Instagram sur Georgina Yael Atias.
Super, bah je remettrai évidemment tous les liens en description du podcast. Et ben merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange autour du silence que j'ai trouvé très intéressant.
Merci à toi Laura.
Merci beaucoup Laura.
Merci également à vous d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à venir en discuter sur mon compte Instagram Yoga et Nous Podcast. À très vite pour de nouveaux échanges autour du yoga. Je vous prépare aussi une petite surprise avec très bientôt un nouvel épisode hors série.